France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Avec son cinquième livre Protocole, elle détaille presque cliniquement les processus, les modes d'emploi de la mise à mort dans les prisons états-uniennes. L'autrice Constance Debray sera mon invitée à partir de 13h. Et pour commencer en critique avec aujourd'hui deux romans qui nous arrivent d'Italie. Septembre noir d'un auteur très apprécié en France, Sandro Veronesi, paru aux éditions Grasset. Et l'anniversaire qui a valu à son auteur Andrea Baiani le prix Strega 2025. C'est l'équivalent de notre Goncourt. Il vient de paraître aux éditions Gallimard. Vous écoutez les Midi de Culture, oh les beaux jours. Et pour débattre autour de la table, j'ai vu votre petit regard en coin à toutes les deux. Virginie Bloch-Lenné, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière. Bonjour.
Bonjour Marie.
Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice de notre point culture national sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Pour vous raconter cette histoire, je dois commencer par évoquer mes parents. Ils étaient à cette époque les dépositaires de ma sérénité. C'est donc qu'ils étaient de bons parents. J'avais 12 ans, et rien dans ma vie n'aurait pu, même de loin, rivaliser en importance avec eux. Si l'on peut dire que j'ai vécu une enfance protégée, que j'ai été un enfant heureux, c'est grâce à eux. Voilà pourquoi les événements que je vais raconter m'ont affecté si profondément. Parce que, pour la première fois, ils ne surent pas me préserver. Pire, ils furent une des causes du séisme qui me frappa. Pour la première fois, le monde venait me toucher directement, sans filtre. Et le monde brûle. C'est un feu ardent. Je l'ignorais parce que jusqu'à ce jour, mes parents avaient toujours été là pour s'interposer. Mais cette fois, c'est en eux que s'incarna la férocité du monde. Donc, si l'on peut dire qu'à partir d'une certaine date, je n'ai plus été heureux, du moins plus de cette façon, ce fut leur faute.
On ne présente plus Sandro Veronesi deux fois, prix Strega, prix Femina étranger en 2008, avec son roman Chaos Calme, aussitôt adapté au cinéma, avec Nanni Moretti dans le rôle principal. Septembre Noir est son 18e roman, le titre dit bien l'époque à laquelle se situe cette histoire, cet été 1972, quand en plein cœur des JO de Munich, 11 athlètes israéliens sont assassinés par des membres de l'organisation terroriste palestinienne. Septembre Noir. L'auteur fait correspondre cet événement à la fin de l'enfance et à la fin d'une forme d'innocence chez son héros, le jeune Gigio, si je le prononce bien, 12 ans, qui jusque-là passait des vacances sans nuages sur la Riviera Toscane. Quelques mots d'abord, Marie Sorbier.
Alors, Sandro Veronesi a été l'invité de Marie Richeux, notre collègue au Book Club, il y a quelques jours, et il a dit cette phrase, l'interview se passait en français, et donc quand Marie Richeux lui demande « mais pourquoi on n'a pas fait cette interview en italien ?», il dit « je préfère répondre en français parce que comme ce n'est pas ma langue maternelle, je réfléchis à ce que je dis. » Et donc, quand j'ai écouté cette phrase, je me suis dit que peut-être il devrait essayer d'écrire aussi en français ou en anglais, qui sont les deux langues d'ailleurs qu'il parle très bien, parce que j'ai eu quand même l'impression que dans ce livre-là, il y avait beaucoup de bavardage. C'est un livre qui, pour moi, pêche par trop de volontarisme et qui, du coup, on a finalement l'impression d'une montagne qui accouche d'une souris, ce fameux séisme-là dont on vient d'entendre parler, qui, pour moi, tombe un peu à plat parce qu'il arrive très tard dans le livre. Il n'empêche que c'est quand même un livre agréable à lire et qui a plein de charme par ailleurs. Mais littérairement, je me suis sentie un peu étouffée par la trop grande présence de l'auteur.
Virginie Bloch-Lenné, d'abord quelques mots.
Alors, c'est un livre qui est un peu une expérience de l'ennui. Avec le recul, et vraiment, j'en avais assez, parce que il dit « je vais raconter les choses lentement ». Il justifie ça dans un très joli chapitre, un chapitre bref d'ailleurs. Donc il raconte lentement, il dit « vous allez voir », mais le séisme en effet. Mais c'est quand même un très beau livre sur la découverte par un enfant de 12 ans de la violence. Et ce qu'il découvre, qui est tout à la fin, ça reste en mémoire. Et ça m'a fait penser au film de Spielberg sur ses parents, The Fabelmans. Donc c'est mélancolique et c'est un regard d'adulte sur des parents qui ont raté quelque chose.
Mais alors oui, c'est vraiment un regard d'adulte sur l'enfance. Est-ce que ça fonctionne ? Ça, c'est vraiment très très difficile à faire en général. Hein.
Alors, il le dit d'ailleurs parce qu'il explicite beaucoup son projet littéraire dans le texte. Hein. C'est un roman, mais très souvent, il s'adresse au lecteur, ce qui est un des problèmes, mais j'y reviendrai. Mais ce qu'il essaie de faire, son effort littéraire, c'est d'écrire avec les connaissances qu'il avait à 12 ans. C'est ça son projet. Donc, il va parfois dire dire au lecteur, évidemment, je ne vais pas vous raconter tout en détail parce que à 12 ans, je ne le savais pas. Donc, il essaie vraiment de se mettre à la place de ce garçon. Prépubère, il commence à découvrir son corps, qui est complexé parce que lui n'a pas de poils alors que ses copains à la plage en ont plein. Donc on est sur ces anecdotes-là, qui sont des anecdotes corporelles d'un enfant de 12 ans qui découvre aussi ce que ça veut dire être attiré par une fille de son âge, voilà, qui a le parasol d'à côté. Il essaie vraiment, Véronèse, de se mettre à cette place-là. Je trouve que par moments, il y arrive. C'est d'ailleurs ce qui rend le livre charmant. Je trouve que c'est le bon terme. Il y a quelque chose de désuet, mais charmant, parce que cette tentative qui est évidemment vaine, vous venez de le dire, Marie, c'est très dur de, quand on a 60 ans, de se mettre dans la tête d'un enfant de 13 ans. Pourtant, il y a des moments, je trouve, où il y arrive. Il y a une émotion qui pointe de cette innocence qu'il essaie de retranscrire. Et c'est peut-être parce que, justement, il essaie sans parfaitement y arriver que là, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui marche moins, je trouve, c'est cette volonté, il y a quelque chose de très volontariste, hein, je le disais dans ce livre-là, de vouloir, un, parler au lecteur toutes les deux pages, c'est souvent des chapitres très courts, qui commencent et qui finissent souvent par une adresse au lecteur qui est « je vais vous raconter cette anecdote parce que, attention, à partir de ce moment-là, je ne serai plus le même ». Très bien, on a un passage qui est raconté, et puis à la fin du chapitre, on nous dit, alors, c'est pas encore tout à fait maintenant l'événement, le séisme, mais c'est bientôt, mais attention, je vous ai raconté ça, parce que ça va jouer dans l'histoire. Alors, les deux, trois premières fois, on y croit, on attend, on se dit, il va se passer quelque chose. Au bout d'un moment, on comprend qu'on est peut-être là sur une frustration d'écrivain, il a le droit de frustrer son lecteur, et je me suis dit, bah, très bien, peut-être qu'au bout des 300 pages, le séisme n'aura pas lieu. Mais il va pas non plus au bout de ce procédé-là, parce qu'il nous fait attendre, il génère une frustration. Mais c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Virginie. Je trouve que ce qui l'accouche à la fin est petit, ou en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme une petite vaguelette et pas comme le séisme annoncé. Et donc, comme toute promesse non tenue, il y a une déception de la part du lecteur, ou en tout cas de la lectrice que j'ai été.
Virginie Bloch-Lenné.
Alors, je trouve qu'il y a une vaguelette, mais ensuite, il y a une grosse vague. Parce que il y a deux choses qui sont révélées à la fin. Il y a, on peut on pas peut le pas dire. Dire.
Ah, non,
c'est embêtant,
non,
c'est embêtant tombé, parce que, ouais.
Donc, il y a périphrase.
Il y a deux vagues et il y en a une qui est vraiment bien. Mais sur le regard qu'il a, ça se mélange, en fait, le regard d'adulte et le regard d'enfant. Il y a des choses très jolies, la façon dont il parle de sa mère. Il a 12 ans, donc il adore sa mère. Elle est d'origine irlandaise. Lui, le père est italien. Elle a une chevelure rousse. Ça, il voit très bien. Il arrive à restituer la fierté qu'il avait en voyant les regards posés sur sa mère. Il parle très bien de sa sœur. Il adore sa sœur. Tout ça, c'est réussi. C'est vrai que lorsqu'il dit « là, je vais, ça va être un indice de la suite », on est un peu déçu. Mais il est architecte de formation, Véronèse, et je trouve que c'est quand même très bien organisé. Il pose des indices, notamment au cœur du livre, il y a un chapitre assez bref, et là, il va vite au cœur des choses, qui parle de lui et de sa femme. Le narrateur est professeur et traducteur. Et il fait un très beau portrait de l'épouse qu'il a en tant que narrateur, et c'est là qu'il décide de raconter les choses lentement, parce que la lenteur a pu sauver la vie de quelqu'un dans l'anecdote qu'il raconte. Mmh. Et ça, je trouve ça très joli, c'est posé comme ça au milieu du livre, et on voit l'adulte qu'il est devenu alors qu'il a en fonction de... on peut quand même dire que c'est une famille qui va être anéantie, ce qui se passe aussi dans le roman dont on parlera de Bayani. Et il, lui, fait très attention à la famille qu'il a fondée.
Mmh. Marie Sorbien.
La différence, peut-être, c'est que dans la famille décrite par Véronèse, on est quand même sur une famille... Alors certes, il va se passer quelque chose à la fin, mais on est quand même sur une famille un peu sans problème, sans histoire. On est dans cette petite bourgeoisie italienne qui part 3 mois en vacances chaque été, ce que font d'ailleurs tous les Italiens. Donc les femmes prennent les enfants qui finissent plutôt l'école et elles vont à la mer, et puis les pères les rejoignent tous les week-ends ou pour les jours fériés. Ça, c'est vraiment l'Italie classique dans sa structure familiale. Ce qu'il fait très bien, et là je rejoins Virginie, c'est des portraits. Il y a des portraits qui sont croqués, qui sont très justes. Notamment, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est mes pages préférées, le portrait d'un personnage qui est l'oncle Giotti. Alors, c'est un nom qui n'est pas un oncle, on sait pas très bien qui il est, mais bref, tout le monde l'appelle l'oncle. Et c'est un personnage qui a beaucoup de relief, qui paraît un peu fantasque, mais bizarrement, qui parlait qui paraît plus réel, en tout cas plus incarné que tous les autres, parce que finalement, cette famille qu'il décrit, alors en effet, il les aime beaucoup, et sa mère, et son père, et sa sœur, mais ils sont un peu plats, il y a un peu lisse. On sent qu'en tout cas, jusqu'à la fin du roman, il leur est rien arrivé de terrible dans cette vie-là, et c'est vraiment cette petite bourgeoisie qui profite des vacances, et son seul enjeu, c'est que, comme vous l'avez dit, la mère est irlandaise, et la mère et la fille sont rousses, donc ont une peau qui réagit au soleil, et donc c'est la phobie de sa mère, c'est que la petite prenne trop le soleil et souffre de ça, donc ça détermine les horaires de plage. Donc il y a quand même tout un développement dans ce livre sur ce qu'ils font toute la journée, mais en fait ce qu'ils font c'est, ils sortent, ils vont à la plage, ils rentrent pour faire la sieste, ils ressortent à la plage et puis ils dînent.
On rêve, moi j'adorerais ça.
Et ce pendant 3 mois, Marie, imaginez.
Mais ils rencontrent des gens à la plage.
Et donc il y a quand même cette balance qui, pour moi, a penché un peu du côté de l'ennui, en effet. C'est-à-dire que cette vie sans accro, cette vie de petit bourgeois à la mer, a finalement m'a pas vraiment accroché. Même cette histoire d'amour, c'est-à-dire c'est une première histoire d'amour. Le narrateur a 13 ans et sa voisine de parasol a aussi 13 ans. Et il se trouve qu'ils s'entendent bien sur un point un peu particulier, c'est que ce jeune narrateur, comme sa mère est irlandaise, est bilingue et que cette jeune fille veut apprendre l'anglais. Et donc c'est là-dessus qu'ils se retrouvent pour traduire les chansons du moment. Donc ils traduisent David Bowie, par exemple. Et donc lui, d'un coup, prend une importance folle parce que il comprend les paroles de cette chanson que cette petite fille ne comprend pas. Donc tout ça est très mignon et ça pourrait nous accrocher, mais même cette histoire-là, qui est décrite à grand renfort de détails, il essaie d'ausculter ses sentiments d'adolescent ou de préadolescent, ça pourrait être très beau. Certains moments sont très beaux, mais c'est pareil, je trouve qu'il s'étale un peu. En fait, la critique principale de ce livre, c'est que l'auteur prend trop de place. Il est là tout le temps, avec cette voix off dont je vous parlais, où il s'adresse à nous, qui moi a fini un peu par m'étouffer. Je le trouve beaucoup trop présent et il étouffe finalement toutes les brindilles, toutes les pousses qu'il essaie de faire grandir dans ce livre-là.
Et Virginie Bloch-Lenné, on a quand même le titre, hein, Septembre Noir, les JO de Munich. De quelle façon ça s'imbrique dans son discours, en fait, dans son récit?
Et bien justement, il l'imbrique très bien. C'est discret. C'est pas ça le séisme. C'est un séisme personnel. Il leur donne, c'est en toile de fond, de même que le père de la petite fille dont il tombe amoureux est qualifié de fasciste. Donc il y a la violence, elle est en toile de fond, et il la laisse en toile de fond parce qu'une autre violence va se produire au premier plan. Et il parle au moment où ça secoue le plus dans sa vie à lui, de petit garçon, il y a le meurtre des athlètes israéliens, mais il laisse ça en toile de fond, il ne comprend pas très bien, il entend, ce sont les adultes qui en parlent, quelqu'un dit, ils sont tous morts, c'est ce que beaucoup de gens disent en se souvenant des JO de 72. Et donc ça reste là, et ça je trouve que c'est bien construit, que ça ne prenne pas le premier plan. Et il écrit à un moment, c'est mon septembre noir, il a vécu un septembre noir. Avec, je trouve qu'il ménage bien plusieurs bombes à retardement dans ce roman. Il y a Septembre Noir, mais Septembre Noir, ce n'est que 30 ans après la fin de la guerre. Il y a une bombe à retardement parce que leurs voisins de plage sont, ce n'est pas n'importe qui, et il va se passer là quelque chose dans cette rencontre. Bombe à retardement parce que la vaguelette, comme disait Marie, le premier problème est suivi d'un problème plus grave, et c'est ça, moi, d'une violence plus forte, et c'est ça qui me fait penser au film de Spielberg qu'il raconte. Là, je trouve qu'il se met en retrait et il montre deux adultes, ses parents, qu'on voit se débattre devant nous sur les pages, et c'est très beau.
Marie, un dernier mot peut-être ?
Oui, dernier mot rapide. C'est pas très étonnant que Cas au calme, par exemple, ait été adapté au cinéma, parce que c'est un livre qui est aussi très cinématographique, c'est-à-dire que c'est un livre que l'on voit quand on lit, et puis il use de tous nos sens. C'est-à-dire, c'est un livre avec beaucoup d'odeurs. Il décrit, par exemple, l'odeur du soleil. Et quand il a décrit, c'est un petit chapitre comme ça, de 3 pages, on la sent, on voit très bien ce qu'il veut dire, cette odeur du soleil, qui est un mélange de crème solaire, de sable, de sel. Et donc, tout ce rapport assez synesthésique à l'écriture donne tout de suite un film. En fait, quand on le lit, on voit ses parasols collés. C'est un peu une Italie sépia des années 70, mais ça, il le décrit très bien.
Septembre Noir de Sandro Veronesi, apparu chez Grasset. Il est traduit de l'italien par Dominique Vitoz. Et comme vous le disiez, Marie, Sandro Veronesi était l'invité de Marie Richeux dans le Book Club la semaine dernière. Et donc l'émission est bien sûr podcastable.
Je n'ai jamais rien écrit au sujet de ma mère. Je n'ai jamais pensé qu'il vaille la peine de parler d'elle, et au fond, je ne l'ai jamais fait. Lorsqu'elle apparaissait dans les conversations, y compris les plus intimes, ce n'était qu'à travers le scintillement d'un mot enchâssé dans la phrase. La portion de monde qu'elle occupait était si négligeable qu'elle ne demandait pas d'audience. L'encombrement familial était entièrement consacré à mon père, qui s'était placé au centre de la scène et avait rédigé, pour ainsi dire, la version unique du roman de la famille. Celle d'un homme qui avait tout à recouvrer de l'existence, ce qui avait pour conséquence que nous payions tous, que nous brûlions tous dans le feu avec lui. En d'autres termes, j'ai cru mon père. Je n'ai jamais pensé qu'il vaille la peine de parler de ma mère, parce qu'il n'y avait rien à dire à son sujet. Sa vie se résumait à sa venue au monde. Sa façon d'être au monde n'était pas digne d'être remarquée.
On enchaîne avec le roman d'Andrea Bayani, c'est le sixième, mais c'est le troisième traduit en français, en l'occurrence par Nathalie Bauer pour Gallimard. L'anniversaire a valu le prix Strega à son auteur, l'équivalent de notre Goncourt, et il s'attaque lui aussi à l'institution italienne de la famille. Dans ce texte à mi-chemin entre le roman et l'autofiction, le narrateur raconte qu'il a coupé les ponts avec sa famille depuis 10 ans exactement. C'est de ce genre d'anniversaire qu'il s'agit. Fort de cet éloignement volontaire, il peut maintenant regarder le passé, un père tout-puissant et autoritaire, une mère soumise, et interroger sa propre place dans ce dispositif mortifère. On commence en quelques mots, Virginie Bloch-Lenné.
C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, ça a été un phénomène de librairie en Italie, il est traduit dans plusieurs langues, c'est un très beau livre qui peut étonner par la froideur, la sobriété de son style au début, et plus on avance, plus on comprend que cette sobriété se calme. Il y a un blurb, une petite phrase qui vante le livre sur la couverture d'Emmanuel Carrère, et elle est très juste, un livre scandaleusement calme. Et bien le narrateur est hébété de ce qui est arrivé à sa famille, et c'est un grand livre, ça donne sa singularité au texte, c'est un magnifique texte.
Marie Sorbier.
Oui, c'est un roman très perturbant, d'une grande maîtrise et d'une grande précision. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est qu'en fait, l'auteur explicite comment le geste d'écrire lui permet de prendre du recul et de regarder, mais de regarder pas tellement en tant que fils, mais aussi en tant que citoyen, ce nœud familial anxiogène, en fait. C'est vraiment un livre de la prise de conscience collective du poids de la famille en Italie. Et c'est pas un livre qui a des vertus curatives comme on a pu en avoir dans toute cette vague d'autofiction. Il n'écrit pas ça pour aller mieux, il écrit ça pour qu'on prenne conscience collectivement qu'il y a un problème sur la famille en Italie.
Alors effectivement, si son objet c'est qu'on prenne conscience collectivement, ça explique ce ton un petit peu détaché que vous décriviez, Virginie Bloch-Lenné.
Oui, ça peut. Oui, et il veut aussi. Il se trouve que je l'ai rencontré pour la revue Le Grand Continent. Il ne veut surtout pas parler d'autofiction. Mais c'est sa façon aussi. Donc, il ne veut pas en entendre parler. Il se tient à l'écart, et c'est aussi la façon dont il veut rompre avec ses parents. Mais il décrit très bien ce qu'il appelle le totalitarisme domestique. Il y a des mots très forts sur le sadisme du père et le masochisme de la mère, parce que il dit que sa mère, elle a été comme incorporée au père. Il écrit, et ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas quand on lit, que sa mère n'avait pas peur du père, alors que le père hurlait, imposait des règles et frappait. Et la mère, elle fait alliance avec le père, elle a été éduquée à cette soumission-là, elle l'accepte, et il observe ça, les bras lui en tombent, lui a tout le temps peur, il a une sœur qui a moins peur, et il, devenu adulte, il observe ce couple qui danse le tango, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils s'y mettent à deux, et la mère ne protège pas les enfants. Elle laisse faire le père.
Marie Sorbier.
Moi, je trouve que le projet littéraire, en fait, du livre est très fort. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marquée. Et je pense que je me souviendrai de ce livre longtemps. Non pas parce qu'il raconte techniquement, parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. C'est vraiment des descriptions. D'ailleurs, il refuse l'énumération. Donc, il va citer une anecdote et il s'en tient là. Il est vraiment dans le peu. Ça me fait d'ailleurs penser à un livre dont on a parlé ici, d'un autre écrivain italien contemporain qui était Marco Lodoli, qui avait écrit ce livre paru chez POL l'année dernière, qui s'appelait Si peu. Et c'était pareil, c'était une histoire un peu en retrait avec ce recul-là. Et il a ça, et je trouve ça d'une force incroyable, parce que c'est un livre sur la violence, mais qui est sans haine ni crainte. Et ça, c'est un tour de force, et c'est ce qu'il revendique. Et à la lecture, c'est ce qu'on sent. Donc, je trouve que sa phrase est redoutablement efficace là-dessus. Mais ce qui m'a, moi, touchée et vraiment marquée, c'est que donc, son projet littéraire, que je disais très fort, c'est qu'il veut désincruster la mère du père. C'est un livre sur le père, mais c'est un livre qui parle que de la mère. Et donc, en parlant de la mère, il essaie, par les mots, par les phrases, de vraiment désincruster l'un de l'autre, parce que le père a tout bouffé, en fait. Il a envahi. C'est l'histoire d'une invasion des imaginaires des gens de sa famille. C'est un état totalitaire. Il le dit, la famille est un état totalitaire. Et c'est ce qu'il décrit. Et donc, on a un tyran, le père, qui a décidé qui devait faire quoi, qui devait parler à qui et ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Et là-dedans, la mère, qui a été vraiment la grande oubliée ou l'invisible parmi les invisibles, elle a fusionné, en fait, avec le père. Et donc, pour les enfants qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas la voir. En fait, elle n'avait pas de corps. D'ailleurs, il dit plusieurs fois, ma mère n'avait pas de corps. Vraiment, elle était invisible au sens premier du terme. Et pour lui, pour l'auteur, ce que peut la littérature, c'est lui redonner une place grâce aux mots. Je trouve que ce projet qu'il dit en quelques phrases au tout début, puis après, il n'y revient pas, il est vraiment dans son roman, est d'une force et d'une puissance. Moi, ça m'a donné vraiment presque la chair de poule, parce que je trouve qu'on dit parfois, c'est quoi la force de la littérature, à quoi ça sert la littérature? Et là, je trouve qu'il y a une réponse très concrète. Pour lui, la littérature, ça a servi à rendre une place à une femme qui a été invisibilisée.
Virginie Bloch-Lenay.
Marie disait que le roman de Véronèse est cinématographique. Celui-ci l'est aussi parce qu'il y a des scènes et on a l'impression qu'il les filme. Il se tient à l'écart. Il raconte notamment que sa mère, avant d'épouser son père, se rendait au rendez-vous que le père, lui donnait avec un réveil. Elle courait avec un réveil pour surtout être à l'heure. Donc la peur, elle l'avait dès le début parce qu'on lui avait appris ça, à avoir peur. Alors que elle vient d'une famille qui a été bourgeoise, il y a eu une chute sociale et elle est la seule des deux à avoir fait des études. Elle a un amour de la littérature, il ne l'écrit pas, le narrateur, mais on peut se dire que c'est de là que vient son amour de la littérature. Il y a une autre scène saisissante où la mère se lave les dents dans la cuvette des toilettes parce qu'ils vont quitter, la famille va quitter une maison, le père a coupé l'eau. Et elle sait que ça va énerver le père si elle lui dit « Peux-tu remettre l'eau pour... ?» Donc, et elle fait ça en silence. Et il y a un silence qui est aussi très fort lors d'une scène violente. Le narrateur arrive alors que la violence a eu lieu, le carnage a eu lieu. Et tout le monde se tait, est hébété. Les voisins ont entendu des bruits qui font comprendre ce qui s'est passé. Et là aussi, ça se passe en silence. La mère est placide, alors que c'est contre elle qu'a été dirigée la violence. Et on voit un appartement sans dessus-dessous. On voit le chagrin, la détresse. Je crois qu'à un moment, il y a le mot détresse ou désastre. C'est vraiment un désastre. Et ça fait du mal à tout le monde, y compris au père. Il dit que le père, lui aussi, on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, mais pour en être là, ça a dû être terrible. Le père, pour se faire aimer, a besoin d'être tyrannique et d'être horrible. Ce qu'il reçoit en échange, c'est de la peur, mais lui prend ça pour de l'amour.
Le narrateur se place à quel endroit? C'est toujours un narrateur qui parle de là où il est, contemporainement, on va dire.
Alors, il raconte. En fait, il y a un peu deux parties dans le livre, même si la deuxième est beaucoup plus courte. Mais il y a une première partie où on est dans l'enfance, où le narrateur raconte. Alors, c'est des pronoms neutres. Hein, c'est la mère, oui. Le père. Il y a pas de nom. Donc, on est quand même dans un roman dans ce sens-là où il ausculte, il regarde. C'est une position de retrait où il regarde. Et ce que je trouve très beau et d'ailleurs ce qui fait le lien entre les deux parties, c'est qu'il y a un objet qui revient et qui, en fait, condense le livre. C'est le téléphone, qu'on voit d'ailleurs en couverture du livre.
Très belle couverture.
Très belle couverture. Et en fait, le téléphone est l'objet transactionnel parfait du livre. Ça commence parce que cette famille n'a pas le téléphone, alors qu'à leur époque, tous leurs voisins commencent à avoir un téléphone chez eux. Eux l'ont pas pendant très longtemps, puisque le père ne veut pas que les membres de la famille communiquent avec l'extérieur. Ils finissent par avoir un téléphone, mais ce téléphone devient le lieu est surveillé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler qui on veut. Il est dans une pièce avec tous les autres, il est dans la cuisine ou dans le salon, je ne sais plus. Mais on ne peut pas téléphoner sans la présence du père, ce qui fait que ça réduit quand même l'utilité du téléphone, on ne peut pas parler. Bon, donc le téléphone, dans la première partie, dans cette partie de description, est un objet qui prouve que le lien est rompu, puisqu'on ne peut pas appeler avec un téléphone, et on rejette la modernité, et on rejette tout ce qui est extérieur à la famille. Et ce qui est très beau, et c'est là où il a quand même un talent de romancier, Andrea Bajani, c'est que dans cette seconde partie, où lui, le narrateur, est adulte, et il y a quelques pages sur des séances de psy, qui sont d'ailleurs vraiment magnifiques. Je vais pas tout dévoiler parce que je trouve que ces pages sont très belles.
Le livre change complètement, on dirait un conte.
Exactement, et donc il se retrouve devant une psy très particulière qui a des méthodes vraiment très particulières, une vieille dame. Et notamment, parmi ses méthodes, c'est qu'elle accepte que ses patients lui téléphonent n'importe quand dans la journée, hors des séances. Ce qui fait que...
Même
pendant les séances. Et ce qui fait que quand lui-même est en séance, évidemment, les autres patients appellent. Et donc, cette psy se lève tout le temps pour aller répondre au coup de téléphone d'autres patients. Et donc, on retrouve là, ce qui est assez beau, il clôture son roman, c'est-à-dire que là, le téléphone devient
le lien
rétabli, le lien où on peut raconter son histoire et le lien où on vient s'épancher auprès de quelqu'un qui, enfin, vous écoute.
Alors, on peut faire un petit lien, Virginie Bloch-Lenné, sur... Là, on a deux romans italiens traduits en français pour cette rentrée littéraire de janvier. Qu'est-ce que ça raconte un peu ? Il y en a d'autres, hein, je crois.
Alors, oui, il y en a un qui va sortir début février aux éditions du Sous-Sol. C'est le portrait d'un père. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est le portrait d'un père qui est bouché, comme l'est le père d'Anthony Passeron dans Jackie. Ce que ça raconte, c'est qu'il y a un roman un peu désuet qui est celui de Véronèse, mais que moi je trouve très beau. Et là, un roman sur un thème plus contemporain qui est le patriarcat. Il y a quelques années, il y avait eu pas mal de livres, de romans italiens sur Berlusconi. Ça a disparu. Ça avait inspiré des jeunes écrivains italiens. Maintenant, oui, bon, il y a le patriarcat. Les parents, ça se rapproche un peu des romans français. Oui,
le livre dont vous parlez s'appelle Hivernage. L'auteur Dario Voltolini.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant de voir. On a tendance à dire que l'Italie, MeToo, tout ça, mais plus de temps à arriver. Mais là, c'est en train de se produire.
Oui, oui. Ce qu'il raconte est Bayani est sans doute plus fréquent en Italie qu'en France, encore maintenant.
Et d'ailleurs, ce livre, vous parliez de l'impact qu'il a eu en Italie, mais je crois qu'il est aussi salutaire pour toute une société qui se rend compte qu'en fait, ce poids de la famille qu'ont tant vanté les Italiens comme étant la structure première de la société italienne a été pour beaucoup en fait un enfer, une prison, vraiment un état totalitaire. C'est ce qu'il a essayé d'énoncer et je crois que c'est ça aussi que reconnaissent les gens de sa génération dans ce livre-là.
C'était donc l'anniversaire d'Andrea Bayani qui a paru chez Gallimard et qui est traduit de l'italien par Nathalie Bauer. Virginie Bloch-Lenné, Marie Sorbier. Pardon.
Très bien traduit.
Eh ben voilà, on lui
dit. Je ne dis pas l'italien alors.
Ça lui fera plaisir. Marie Sorbier, Virginie Bloch-Lenné, merci beaucoup.
Merci
d'être venue dans les midis. Marie, on se retrouve tout à l'heure pour le point culture. Et je remercie également Marceau Vassy et Nicolas Berger pour les lectures du jour. Je vous remercie vous aussi qui nous écoutez. Maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Restez avec nous, on revient juste après ça.